Chapitre 40. Le naufrage du Télémaque. Tard dans la nuit, quelque part dans l'agglomération rouennaise. L'homme rentra en silence et alla directement se laver les mains et le bras. Le sang coula dans l'évier. « C'est grave ?» demanda une voix féminine. « Non, ce n'est rien, c'est superficiel. Ce salopard de marin indonésien était sur ses gardes. » Il marqua un long silence. Mais la police dispose de mon ADN maintenant. Ils n'ont aucune raison de te soupçonner, tu le sais bien. Ne bouge pas, je vais désinfecter la plaie. Le contact de l'alcool sur la plaie fit grimacer l'homme. Tu as raison. La malédiction s'est accomplie cette nuit, c'était le principal. Les flics vont tourner en rond pendant un bon moment avant de comprendre notre double meurtre. Ça va nous laisser le temps de tout terminer aujourd'hui. Il reste un dernier témoin à éliminer. Tu as sommeil ? Demanda la voix féminine. « Non, pas encore. » Le bras bandé, l'homme s'installa dans le canapé blanc. La femme se pencha sous la table du salon, ouvrit le tiroir. Sa main attrapa un DVD. « Le Télémaque, cette circonstance, non ?» L'homme sourit. La main féminine mit en route le DVD et actionna la télécommande. L'immense écran s'ouvrit sur un magnifique cloître Renaissance. Au centre du cloître, un buffet était dressé et une foule assez compacte, vêtue avec beaucoup d'élégance, se pressait autour. Au-dessus du cloître, des lettres rouges sur une grande banderole. Cloître des pénitents, exposition, mémoire et protection de la Seine. Agence régionale de l'environnement de Haute-Normandie, 10-13 mai 2001. Le film bougeait beaucoup, comme s'il était tourné en caméra cachée. Un individu barbu et bedonnant, dont l'accoutrement négligé tranchait avec la distinction de l'assemblée, s'approcha d'un groupe de trois femmes d'un âge certain qui tenaient tout un verre de champagne à la main. Les bijoux qu'elles arboraient donnaient une idée assez précise de la classe sociale à laquelle elles appartenaient. On reconnaissait en l'homme barbu Pierre Poulizac, Ram Fastos. Il se lança à l'abordage du groupe de femmes.
« Je vois, mesdames, que vous avez sorti vos plus beaux bijoux. » Ils sont du plus bel éclat dans cet écrin Renaissance, vous ne trouvez pas ? »
Les trois femmes, surprises, hésitèrent un instant sur la conduite à tenir devant l'importun.
« Monsieur ?»«
Pierre Poulizac, mais mes amis m'appellent Ram Fastos, pirate en retraite, pour vous servir. Vous n'avez donc plus rien à craindre pour vos bijoux, mes belles dames. »
Une des trois femmes éclata de rire et les deux autres durent suivre. Ram Fastos n'était pas très beau à voir. Mais il avait une voix de velours et sa conversation avait toutes les chances de rompre la monotonie oisive des belles dames. Ram Fastos observa d'un œil expert les joncs d'or et les boucles d'oreilles de ses auditrices.
« Le page, sans aucun doute, encore aujourd'hui la plus grande bijouterie de Rouen. Savez-vous, mesdames, qu'en 1663, le jeune orfèvre rouennais Le Page a ciselé une couronne d'or pour un Raja des Indes avec lequel le port de Rouen commerçait ? La couronne est-elle arrivée à bon port ? Qu'est-elle devenue ? Nul ne le sait. Voyez, mes belles dames, vous n'avez rien à craindre de moi. Je suis un pirate cultivé. Il y a longtemps que les pirates ne sont plus de dangereux anarchistes révolutionnaires. »
Il se rapprocha de celle qui avait ri aux éclats à la première réplique. Une blonde fanée, encore habillée avec un soupçon de fantaisie, qui, lorsqu'elle était jeune, dans ce type de réception, devait attirer autour d'elle un essaim de courtisans. Ram Fastos lui souffla sa mauvaise haleine dans la nuque.
« Je ne voudrais pas vous effrayer, ma belle, mais en d'autres temps, on aurait tranché sans hésiter un aussi joli coup pour pouvoir dérober votre collier sans même ouvrir le fermoir. »
Elle frissonna délicieusement. Les deux autres gloussèrent un peu jalouses.
« Savez-vous, mesdames, ce que sont devenus tous les joyaux de la couronne de France sous la Révolution ? Les bijoux de la noblesse de France, de la cour de Versailles ? »
Il attrapa sur le plateau d'un serveur qui passait une nouvelle coupe de champagne et trois toasts qu'il goba presque sans mâcher. Il s'approcha à nouveau et chuchota sur le ton de la confidence « Le roi Louis XVI les a chargés sur un bateau. En novembre 1789, il a rempli les cales d'un brick, le Télémaque, avec ordre de lui faire discrètement descendre la Seine. On sait maintenant que les cales renfermaient 2 500 000 francs en louis, confiés par des nobles émigrés qui n'avaient pas pu emporter leurs biens.
plus toute l'orfèvrerie, les œuvres d'art et les reliques des abbayes du bassin parisien que l'on avait pu sauver. Sans parler, bien entendu, de la fortune personnelle du roi de France, tout le contenu du garde-meuble royal que les sans-culottes ne retrouvèrent jamais. Un nouveau serveur passa auprès d'eux sans même que les trois femmes ne le remarquent, passionnées qu'elles étaient par le récit. Ramphastos ne se gêna pas, par contre, pour délester le jeune homme d'une partie substantielle de sa charge. « Et ensuite ?» fit la plus hardie des trois bourgeoises. Le Télémaque partit de Rouen la nuit de la Saint-Sylvestre. Officiellement, il se rendait à Brest pour livrer du suif et des clous. Le capitaine avait reçu une enveloppe qu'il n'avait le droit d'ouvrir qu'une fois passé le cap de la Hève. Parvenu à Quillebeuf, le capitaine du bateau, un certain Quémin, amarra solidement le Télémaque au port pour éviter le mascaret. Pourtant, dans la nuit, le mascaret fut si violent qu'il emporta le Télémaque. Après avoir un temps échoué sur un banc de sable, le brick coula 100 mètres plus loin, au milieu de la Seine.
« Et le trésor ?»
chuchota une auditrice osant affronter d'un peu plus près l'odeur fauve du vieux pirate. Officiellement, on ne retrouva dans les cales de l'épave que du suif, des clous, du bois et de l'huile pour le compte du roi. Le capitaine Quémin mourut en 1836, à 82 ans, sans jamais rien révéler de son secret. Une des femmes fit mine d'être déçue.
« Tout ça pour ça, alors, du suif et des clous ? Il n'y a sans doute jamais rien eu d'autre dans les cales du Télémaque. »
Ramphastos afficha un sourire démoniaque en saisissant au vol une troisième coupe de champagne. « Peut-être bien, madame, peut-être bien, mais tout le monde ne pense pas comme vous. » En 1818, Louis XVIII, frère du roi guillotiné, tenta officiellement de renflouer l'épave. En 1837, le sieur de Magny essaya de remonter le Télémaque, sans succès. En 1841, un Anglais nommé Taylor effectua des sondages et découvrit des morceaux d'or et d'argent, avant de prendre mystérieusement la fuite. Enfin, et surtout, en 1939, deux Français, Crétois et Lafitte, lancèrent une expédition scientifique de grande ampleur, à l'aide d'un scaphandrier. Ils remontèrent un bijou en or et une caisse remplie de monnaie d'or et d'argent. En 1940, on crut avoir retrouvé la proue du Télémaque, mais rapidement on dut déchanter. Un spécialiste hollandais de la recherche d'épaves, Verloop, certifia que les fragments découverts ne provenaient pas du Télémaque. Selon lui, le navire serait désormais enterré près du phare de la Roque, dans le marais Vernier, sous un polder asséché en 1880. Une des femmes, assez grande, se redressa et toisa Ramphastos.
« Qu'est-ce qui nous prouve que vous nous racontez la vérité, monsieur le pirate ? Y a-t-il la moindre preuve de ce que vous avancez ?»«
Oh, vous savez, il n'y a pas grand mystère dans ce que je viens de vous raconter. Prenez par exemple le scaphandrier qui a remonté les pièces d'or en 1939. » Il est tout simplement exposé dans le musée maritime de Rouen, sur les quais. La vraie histoire est souvent peu connue. On manque de conteurs de nos jours. Et puis, je ne vous ai raconté que la surface des choses. J'ai aussi une théorie personnelle. Ce mystère du Télémaque peut aussi être abordé en prenant davantage de profondeur.
Il s'approcha de la plus espiègle des auditrices et lorgna sans vergogne dans son décolleté. La sexagénaire en fut rouge de plaisir. Ramphastos chuchota. Quelques années après le naufrage du Télémaque, un Américain, Robert Fulton, proposa au directoire, vers 1800, de tester pour la première fois à Rouen, au Havre et en Valais de Seine son invention.
« Laquelle ?»
gloussa la femme en posant une main pudique sur sa gorge. Ramphastos se rapprocha encore d'elle, admirant peut-être davantage le collier d'or à son cou que la gorge flétrie. Il chuchota. Robert Fulton testa à Rouen et au large de Quillebeuf, pour la première fois au monde, un sous-marin. Un sous-marin qu'il baptisa le Nautilus, 70 ans avant Jules Verne.